Bonjour, l'Union Reformata vous souhaite la bienvenue pour cette méditation. Elle a pour titre « Petite théologie pour minorité active, deuxième de trois, préservée ». Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. » La marginalisation croissante de la foi chrétienne, de ses églises et de ses valeurs peut susciter un certain désarroi parmi les croyants. Mais ce désarroi ne provient-il pas surtout d'une erreur de perspective extrêmement commune, à savoir l'idée que l'Europe occidentale était chrétienne? Certes, on peut l'admettre d'un point de vue sociologique, mais était-ce vrai d'un point de vue spirituel? Dans « Le christianisme va-t-il mourir ?» en 1977, l'historien Jean Delumeau énumère les terribles dérives qui entachent l'histoire des nations soi-disant chrétiennes. Conversion forcée, croisade, inquisition, colonisation, esclavage, racisme, déconsidération des femmes bûchées, de sorcières, exploitation éhontée des êtres humains et de la nature. Pire encore, au-delà de cette liste accablante pour les pays concernés et les forces régnantes dans ces pays, combien de fois les églises elles-mêmes n'ont-elles pas cautionné de tels choix de société, pourtant foncièrement non évangéliques et non bibliques, intrinsèquement contraires à l'esprit du Christ des évangiles, et en y ajoutant d'incessantes luttes internes, divisions, péchés d'orgueil et d'indifférence, voire des abus inqualifiables? Et ne croyons pas que les églises protestantes seraient exemptes de cet art. Heureusement, grâce à Dieu, il y a eu des exceptions, des sursauts de conscience, des réveils spirituels, des élans prophétiques, des conversions et des reconversions. Cependant, et malheureusement, ces correctifs n'étaient généralement pas le fait de la majorité ni des instances responsables, mais d'individus isolés ou de groupes restreints, donc de minorités, qui furent souvent, pour cela, brimés, voire persécutés au nom du Christ. Durant ces siècles où le christianisme déterminait culturellement la société, on a volontiers transposé des textes bibliques concernant Israël dans sa période de souveraineté nationale et d'exclusivité religieuse. Certains continuent encore toujours de raisonner à partir de tels modèles, tels que le mouvement constructionniste américain, les adeptes de l'évangile de la prospérité ou partiellement la nouvelle évangélisation catholique romaine. Partiellement, je dis bien. Mais vouloir réaliser le royaume de Dieu sur la terre par des moyens purement humains peut s'avérer terriblement irréaliste et même dangereux. Qu'on se souvienne de Thomas Müntzer au XVIe siècle. Dans un livre remarquable, « Étrangers et prêtres, mission chrétienne dans un environnement post-chrétien », paru en 2015, le pasteur et missiologue hollandais Stéphane Paas, qui a d'ailleurs eu l'honneur d'être élu théologien de la patrie en 2019, propose de plutôt nous tourner vers d'autres modèles tout aussi bibliques et plus pertinents pour notre siècle, notre situation, l'exil et la diaspora. À Babylone, la situation des exilés d'Israël était plus que précaire. Captifs, confinés, permettez-moi le mot, confinés dans une ville étrangère, soumis à un régime politique on ne peut plus oppressant, immergés dans une culture religieuse en tout point contraire au Dieu de l'Alliance, la pression était maximale pour qu'ils se fondent dans la masse et se conforment au modèle ambiant. Pour les exilés, transformer l'ensemble de la société ou créer une contre-culture était totalement hors de portée. Leur principal défi consistait à rester fidèles en toutes choses au Dieu de l'Alliance et à préserver leur héritage spirituel, la pureté de leur foi et de leurs pratiques religieuses. D'où l'importance, par exemple, pour Daniel et ses compagnons, de maintenir des marqueurs d'identité tels que, entre autres, mais aussi en particulier, la prière quotidienne et l'observation des préceptes alimentaires. Nous ne sommes plus dans la même situation. À nous, bien sûr, de nous interroger sur ce qui, en tant que disciples du Christ, doit nous caractériser, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les évolutions de la société. Franchement, cela peut s'avérer particulièrement difficile dans le domaine éthique. Les minorités s'inquiètent souvent tellement de leur acceptabilité dans la société environnante, de leur crédibilité selon les normes ambiantes, qu'elles finissent par baisser la garde par rapport à leur identité propre et à assimiler, sans encore s'en rendre compte, des valeurs de plus en plus éloignées de la révélation biblique. L'ouverture de la première épître de Pierre nous indique la voie. Les chrétiens sont des immigrés, littéralement, des étrangers, des gens dont l'origine se situe ailleurs. Et ils sont dispersés, ils vivent en diaspora. L'Église n'a pas de territoire. La cité de Dieu est spirituelle, pas terrestre. Notre vocation, notre défi n'est donc pas de reconstituer une illusoire hégémonie chrétienne, mais de préserver notre identité en travaillant constamment sur le maintien de tous les marqueurs qui la constituent, donc en maintenant et cultivant, aïe, même si le mot n'est pas à la mode, une humble mais stricte obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, nous qui sommes exilés et dispersés au milieu de ce monde, aide-nous à rester fidèlement attachés à ton évangile et à tous les aspects du modèle de vie qu'il implique. Amen.